absolument phénoménal. C'est du jamais vu, hein. On pensait qu'après le 6 janvier, son aura auprès même de ses partisans s'atténuerait et même disparaîtrait, mais pas du tout. Et ce qu'on a vu du côté politique, après l'assaut contre le Capitole, on a vu certains républicains, y compris le président de la Chambre, enfin pas le président de la Chambre, le président de la minorité républicaine, reconnaître que c'était pas bien et que finalement Joe Biden avait été élu. On a vu un sénateur républicain très proche de Donald Trump, celui de Caroline du Sud, condamné vivement l'attaque. Et puis, les mois passant, finalement, tout le monde est rentré dans l'ordre, si je puis dire, et on a vu que ceux qui avaient critiqué un peu Donald Trump, tout d'un coup, se rapprocher de lui, si bien qu'effectivement, il est toujours, et tout le monde le dit, il est le chef du Parti républicain. Pourquoi les républicains de la Chambre, même modérés, sont obligés de ne pas le critiquer trop ouvertement?
D'accord. Justement, René, qu'est-ce qui explique tout cela? Donald Trump continue de dire qu'il a perdu à cause de la fraude électorale et une majorité de la base républicaine est d'accord avec lui. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui empêche ses proches de répondre aux injonctions de la commission d'enquête et également de voir des responsables républicains le condamner publiquement?
Abdelrahman, vous savez, je pense que tout le monde sait que ce que Donald Trump dit ne correspond pas à la vérité, ce que l'on appelle le grand mensonge, le big lie en anglais, et tout le monde en est conscient. Je pense que lui-même est le premier à en être conscient. Mais c'est une approche délibérée, c'est un calcul politique, un calcul politicien même, j'ai envie de dire. Et malheureusement, beaucoup de membres de son parti le suivent sur ce terrain. Au moment, n'oubliez pas que le 6 janvier, malgré l'attaque sur le Capitole, on a quand même eu 147 élus républicains qui ont voté contre la certification des résultats, 8 sénateurs et 139 députés. Donc il a le parti avec lui, le parti continue de le soutenir, parce qu'au fond, il semblerait que le seul enjeu ici, ce n'est pas un enjeu constitutionnel, ce n'est pas un enjeu par rapport à la démocratie, c'est juste un enjeu de pouvoir, Abdelrahman.
Alors Claude, les républicains accusent justement les démocrates d'utiliser les événements du 6 janvier à des fins partisanes. Cette commission a-t-elle encore un sens, sachant que ses conclusions seront certainement rejetées par l'autre camp?
Oui, c'est évidemment le risque. Si, comme beaucoup d'analystes le pensent, les républicains reprennent au moins la Chambre et peut-être même le Sénat lors des élections de mi-mandat, il est évident que l'une des premières choses qu'ils feront, s'ils deviennent de nouveau majoritaires, c'est probablement de supprimer cette commission et ses conclusions. Ceci dit, les travaux de cette commission sont extrêmement importants. Si la démocratie doit survivre, les Américains, ou du moins une bonne partie des Américains, souhaitent savoir ce qui s'est effectivement passé. Il est de plus en plus évident, basé sur les premières conclusions de cette commission bipartisane, même s'il y a des à majorité démocrate, montre que cette manifestation, cet assaut contre le Congrès n'était pas un mouvement spontané, mais avait été soigneusement préparé avec des groupes d'extrême droite comme les Proud Boys ou comme quelques autres groupes, mais aussi avec l'aide de certaines personnalités proches du pouvoir, telles que Bannon, peut-être même telles que l'ancien chef, le chef de cabinet de Trump, Meadows et d'autres. Donc il est extrêmement important pour l'Amérique de savoir qui est véritablement responsable, et est-ce que cela éventuellement conduira jusqu'à Trump lui-même? Est-ce que Trump était l'investigateur de cette manifestation qui a tourné tragiquement?
René, sur l'utilité de cette commission, vous pensez qu'elle est toujours utile, elle a du sens?
Oui, c'est important d'abord pour l'histoire, c'est important que l'on puisse consigner sur des documents officiels du Congrès et ce qui s'est passé, quel a été le rôle des uns et des autres, y compris le rôle de membres du Congrès eux-mêmes. Certains sont soupçonnés aujourd'hui d'avoir été des facilitateurs, si ce ne sont pas des acteurs, littéralement, de ce qui s'est passé le 6 janvier. Mais avouement, il faut aussi rappeler quand même à vos téléspectateurs qu'au-delà de cette commission, il y a l'enquête qui est menée par le département de la justice, le FBI en particulier. C'est l'enquête la plus large, la plus importante de l'histoire du FBI. Il y a plus de 700 arrestations déjà qui ont été faites. Il y a 350 personnes qui sont recherchées parce qu'elles n'ont pas encore été identifiées. Plus de 20 000 heures de vidéos qui ont été examinées et scrutées par les agents du FBI. Bref, il n'y a pas que la commission qui travaille sur cette question.
D'accord. Merci beaucoup, René. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Tierno Omar Diallo à Conakry qui nous dit que l'assaut du Capitole, ou l'expression de la honte pour les États-Unis, qui était jusqu'à cette date un symbole de fair play politique, mais hélas, il fallait un Donald Trump pour mettre fin à ce succès jamais égalé. Archiduc Théodore à N'Djamena, lui, nous dit l'assaut du Capitole avait donné lieu à un recul de la démocratie américaine, alors que justice soit faite pour situer les responsabilités. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum. L'assaut du 6 janvier 2021 a forcé les entreprises des réseaux sociaux à l'action. Elles ont fermé des comptes, dont ceux de l'ex-président Donald Trump. Un an plus tard, Facebook, Twitter et YouTube sont-ils mieux préparés à faire face à des situations similaires aux États-Unis et dans d'autres pays? Suivez ce reportage de Michel Quinn avec le récit de Ginny Capombo-Villa.
Un an après que les partisans du président Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole à Washington DC, l'ancien président n'est toujours pas autorisé à utiliser Facebook, Twitter et YouTube, les scènes numériques où il s'est adressé directement à des millions de followers.
Ce n'est pas juste, c'est très très mauvais pour ce pays et c'est très mauvais pour le monde. Ils peuvent le faire à n'importe qui.
Le 6 janvier était certainement un moment de bilan pour les plateformes de médias sociaux.
Trump a été accusé d'avoir utilisé les plateformes pour attiser l'émeute. Sa suspension est un rappel brutal du pouvoir que les entreprises de médias sociaux ont sur les dirigeants politiques qui enfreignent leurs règles. Malgré l'interdiction, après le 6 janvier, les entreprises de médias sociaux ont été la cible de critiques intenses. D'aucuns ont déclaré que la suspension était trop tardive, des années après avoir toléré des violations des règles de l'entreprise par Trump. Pour leur part, les entreprises technologiques ont déclaré qu'elles travaillaient constamment à rendre leurs services plus sûrs. L'ancien PDG de Twitter a déclaré lors d'une audience au Congrès que Twitter portait une part de responsabilité dans la diffusion de la désinformation qui a conduit au 6 janvier, mais a souligné une culture plus large.
Vous devez également prendre en considération l'écosystème au sens large. Il ne s'agit pas seulement des plateformes technologiques que nous utilisons.
Il y a eu quelques changements. Twitter a adopté une politique de 5 avertissements pour la désinformation sur le Covid-19. Facebook applique désormais ses règles de modération de contenu aux politiciens, un groupe qu'il avait protégé dans le passé. Mais les changements semblent mineurs pour certains experts.
Ont-ils réellement changé ou non? Ont-ils revu leurs produits et leurs algorithmes et les bases de leurs modèles commerciaux? Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'ils continuent à jouer un peu à la taupe.
En prévision des élections de 2022, le potentiel demeure que les médias sociaux pourraient conduire à plus de troubles selon les observateurs. Certains critiques soulignent la façon dont les entreprises gagnent de l'argent, la publicité et la façon dont les entreprises ont créé des algorithmes qui mettent en évidence un contenu extrême plus engageant.
Beaucoup de ces plateformes ont fait des ajustements sur les bords, mais en fin de compte, il s'agit du modèle économique. Ces plateformes sont fondamentalement conçues pour élever, amplifier, faire proliférer les choses les plus problématiques sur la plateforme, des choses comme les mensonges électoraux, la violence raciale.
Des lanceurs d'alerte ont déclaré que Facebook a montré à quel point certains de ces problèmes sont familiers aux dirigeants de l'entreprise. Au cours de l'année à venir, les législateurs pourraient essayer de forcer les entreprises à apporter des changements plus importants quant au contrôle du contenu controversé et à être plus transparents sur ce qu'elles font.
Voilà, merci beaucoup Jenny. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Ici à Washington, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Et à Dakar, René Lec, analyste politique en ce moment à Dakar donc, mais basé ici à Washington. Alors, je reviens avec vous Claude. Dites-nous un peu comment est-ce que vous voyez un peu le discours aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'Amérique a appris sa leçon, Claude?
Oui, c'est un discours extrêmement difficile pour Joe Biden parce que il va essayer de prêcher ce qu'il a toujours prêché, ce qui a toujours été son credo, l'unité des États-Unis. C'est ce qu'il a souligné une fois de plus dans son discours. Mais comment unifier un pays qui est totalement divisé sur pratiquement tout? Prenez le cas, le problème numéro un en ce moment, c'est la pandémie. Vous avez un pays divisé entre les vaccinés et les anti-vax. Vous avez un pays certainement divisé à propos du 6 janvier. Il y en a beaucoup, une bonne majorité, en fait plus de 50%, dont 95% de démocrates qui disent l'assaut contre le Capitole a été une attaque contre la démocratie, alors que vous avez un nombre moindre de républicains qui disent non, au fond, ce qu'on a fait, c'était en fait pour protéger la démocratie et pour protester contre une fraude électorale qui a été largement prouvée et totalement imaginaire et n'existe pas. Donc, pour Biden, qui se trouve déjà dans une situation difficile parce que après des débuts assez prometteurs, a encaissé pas mal de défaites, se trouver en face d'un pays qui est vraiment plus divisé que jamais, la grande question, est-ce que la démocratie est en péril? C'est ce que tout le monde demande. Cette fois, la balle est passée très près. La démocratie américaine a réussi à survivre. Mais tout de même, il y a de mauvaises graines qui ont été semées. Le ver est peut-être dans le fruit. Il y a un certain nombre de petites organisations de droite qui essaient de prospérer. Et il va falloir être extrêmement vigilant.
D'accord. Être extrêmement vigilant. vigilant. Alors, René, en fait, quelles leçons faut-il en tirer, surtout si on voit que ton sondage du Washington Post paru cette semaine dit qu'un Américain sur trois croit que la violence contre le gouvernement est justifiée. C'est un problème, non?
C'est un très sérieux problème pour un pays qui est quelque part le symbole de la démocratie à l'extérieur international et institutionnel, quelle que soit la perception que l'on peut avoir ailleurs sur la réalité populaire de cette démocratie. Mais en tout cas, bon, jusqu'à présent, malgré tout, on a pouvoir mal. Il y a une résilience des institutions. Malgré tout cela, les institutions continuent, même si au plan politique, la moitié des acteurs politiques, notamment les républicains, ont passé le jour, malgré le fait que le président qui orchestrait l'ensemble de ces opérations de déstabilisation démocratique aux États-Unis était en charge. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Imaginez d'autres pays où le président en exercice s'attaque au système démocratique. Il y a très peu de pays qui auraient, je pourrais même dire, je vous avoue, aucun pays au monde n'aurait pu résister. Et malgré tout, il y a une résilience des institutions dans ce pays et le pays encore tient debout, les institutions démocratiques tiennent encore debout.
Mais alors, René, Claude avait un peu brossé, avait commencé un peu à évoquer cette question. La démocratie américaine est-elle menacée? Beaucoup pensent déjà à 2024.
Oui, tout à fait, elle est menacée. Vous avez vu ce matin, l'ancien président Jimmy Carter a publié une tribune dans le New York Times et il pense que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, et que littéralement la démocratie peut s'effondrer aujourd'hui aux États-Unis si on continue sur cette voie-là, et notamment si les républicains continuent sur cette voie. Le Washington Post, que vous citiez tout de suite, Abu Rahman, a publié aujourd'hui un article où il indique que 163 candidats républicains à des élections locales se positionnent pour jouer un rôle déterminant dans l'organisation des prochaines élections. Et sur ce sens, c'est tous ces 163-là pensent qu'effectivement Donald Trump avait gagné. Donc cela vous montre que bon, on est dans une situation qui peut être particulièrement dangereuse.
Et Claude, ce même sondage dont je parlais, nous dit que seuls 54% aujourd'hui des Américains se disent fiers de leur démocratie contre 90% en 2002. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'il faut faire cet équilibre entre la nécessité de protéger le premier amendement sur les libertés et aussi éviter toute menace à la démocratie?
Oui, c'est une grave question. Vous savez, Benjamin Franklin, à la sortie de la convention constitutionnelle, s'était vu demander par une dame, alors qu'il quittait le site des conversations, alors, qu'allons-nous avoir? Une république ou une monarchie? Et Franklin avait répondu, une république, madame, si vous savez la garder. Et je crois qu'on en est arrivé à ce stade-là, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un certain danger, il faut être vigilant, et la démocratie, il faut savoir la défendre.
D'accord. Alors nous avons quelques soucis avec la connexion de Herman Cohen. Je vais donc terminer avec vous, René. La perception des États-Unis dans le monde aujourd'hui, les États-Unis c'est quand même champion de la démocratie. Où est-ce qu'on va à partir de maintenant?
Bon, écoutez, elle a été fortement écornée, elle a été fortement malmenée. Il est difficile aujourd'hui pour les Américains de donner des leçons de démocratie à d'autres pays dans le monde. Quand l'ancien président, qui était encore président il y a moins de 12 ans, soutient aujourd'hui, comme vous le savez, le dictateur hongrois, qui a apporté son soutien officiel là, dans la semaine qui vient de passer. On est dans un cas.
Bon, d'accord.
Perdu un peu son aura de ce qu'on dit.
D'accord. Merci beaucoup, René. Merci. merci à tous nos invités. Fin de ce Washington Forum. Merci à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires et sur notre page Facebook. Je n'oublie pas toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent.
Des rencontres loin des clichés.
Un choc des cultures, bienvenue.
Dans vous et nous.
Suivi des interviews, des reportages originaux.
Nos rubriques web, nouvelles technologies.
Mode, amour, emploi, vous tiennent informés à l'air.